La musique.
Caravane à maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon grand galant, vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Jean-Marc Serres et Derek Wolfenden.
Bonjour.
Bonjour.
Derek, peut-être il va falloir justifier ce qu'on vient d'écouter.
Donc en fait, ça vient de Yolanda et le voleur. C'est donc un film de Vincente Minnelli de 1945. Et donc j'ai mis ce morceau parce que c'est le morceau que je vais passer donc au Shakira dans une programmation dédiée, dédiée tout court, qui encadrerait un ciné-concert. Donc d'où la présence de Jean-Marc, ouais, qui va nous parler de ce ciné-concert sur La Princesse aux huîtres de Ernest Lubitsch, donc de 1919. Ouais. Et donc voilà, c'est plutôt une thématique un peu autour de la danse, de la musique, des arts déco aussi un peu, et qui en gros c'est une sorte de jeu assez ludique entre 1919 et 1945, et aussi très personnel entre le passage de Lubitsch aussi, qui a passé du muet allemand au parlant américain. Et donc voilà, je vais vous présenter au fur et à mesure la séance.
Très bien. Et notre émission aujourd'hui est orientée sur l'atelier des sons de Jean-Marc. Alors Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Et est-ce que tu peux nous présenter l'association et les buts peut-être que vous avez, et ce que vous avez développé en Seine-Saint-Denis peut-être ?
Alors l'atelier des sons en fait est une association relativement récente, elle date de 2 ans, mais c'est la petite sœur d'une autre association qui s'appelle Hors Circuit, qui est née elle en 92. À l'époque je travaillais dans les banlieues de Seine-Saint-Denis, et on avait à cœur de faire le lien entre les artistes et les habitants des quartiers qui n'allaient pas forcément voir les concerts. Donc on a commencé à faire venir des artistes de jazz dans les bas d'immeubles, dans les crèches, dans les centres sociaux. Je me souviens d'Henri Texier passant dans une crèche avec les petits gamins qui touchaient sa contrebasse à quatre pattes. On a eu des belles aventures comme ça avec Daniel Huc aussi. Et puis on a continué. Et en fait, on part de loin parce que... En 93, c'est là où j'ai rencontré Christian Maire, qui est quelqu'un de très important pour moi et pour l'atelier des sons. Parce qu'à l'époque, on était dans ce qui s'appelait à l'époque une SES, qui est devenue une SECPA, c'est-à-dire le lieu où les collégiens qui réussissent pas à l'école sont délocalisés, on va dire, au fin fond du collège, dans un bâtiment préfabriqué. Pour faire de l'artisanat ou apprendre un métier, comme si apprendre un métier avec ses mains était dévalorisant et ne pouvait être que la conséquence d'un échec. Et on a eu envie de pouvoir montrer à la fois leurs compétences techniques qu'ils acquéraient, mais aussi leur créativité personnelle. Et donc on a eu l'idée de monter un projet où ils fabriqueraient des objets sonores qui reflètent à la fois donc cette compétence technique en plomberie pour certains, en mécanique générale pour d'autres, et leur créativité, puisqu'ils inventaient de A à Z ces objets sonores. C'est là que j'ai cherché quelqu'un qui pouvait travailler sur ce thème, et au bout d'un moment je suis tombé sur les structures sonores bâchées.
Oui, alors... J'aimerais bien que tu précises ton parcours à toi. Parce que tu ne l'as pas dit, mais j'imagine que tu es musicien.
Oui. À la base, je suis musicien, je suis guitariste. Hein, donc j'ai travaillé pendant 15 ans à la guitare classique et la musique contemporaine. J'étais au conservatoire de Meudon avec un musicien uruguayen, Beto Davzak, qui est un grand, grand artiste. J'ai travaillé en guitare classique, et avec lui on a créé un ensemble de guitares qui s'appelait Harmonique 12, et on a fait appel à des compositeurs contemporains pour faire des pièces. On entendra une tout à l'heure, Le Chant des Morts de Patrice Chalulot, avec comme narrateur Alain Cuny.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, c'est pourquoi tu vas vers ces jeunes-là ? Qu'est-ce qui te pousse à aller... C'est une question qu'on se pose aussi, nous, dans l'émission. Qu'est-ce qui nous pousse à faire partager des choses, à avoir envie de faire découvrir des choses aux éditeurs ?
Mais je dirais que la plupart des choses qui me sont arrivées, en fait, sont quasiment des accidents. C'est-à-dire que... J'étais musicien, cherchais des vacations à la fois comme concertiste et puis comme animateur musique. Et en arrivant à Aulnay-sous-Bois, on m'a proposé de travailler sur un instrumentarium qui était Babaché à l'époque, qui était un instrumentarium Grimus, avec des jeunes d'une cité d'Aulnay-sous-Bois. Super, j'étais vraiment content, enfin un boulot à temps plein, formidable, dans la musique. Et sauf que quelques semaines avant que je prenne mon poste, la maison des jeunes où était cet instrumentarium a brûlé, et les instruments avec. Donc je me suis retrouvé dans le quartier, j'étais embauché quand même, mais sans instruments, sans structure. Donc à partir de ce moment-là, je suis allé voir dans les écoles, je suis allé voir les jeunes dans le quartier, j'ai cherché à voir ce qu'on pouvait créer ensemble sans rien. Et finalement, le fait de partir sans rien a sans doute été bénéfique, parce qu'il a fallu qu'on crée ensemble. Et ça nous a rapprochés, parce qu'on était aussi démunis les uns que les autres.
Tu vois, dans l'imaginaire, on pense que ces jeunes s'intéressent à rien ou vraiment pas à ce qui nous intéresse dans notre émission. Et moi, je pense que c'est absolument faux. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette expérience-là?
Cette expérience-là à Aulnay, puis d'autres que j'ai vécues aussi dans le Nord. Par exemple, dans le Nord, donc on était là dans une situation urbanistique très différente.
Dans le Nord de Paris
dans le Nord de la France, du côté de Valenciennes.
Voilà.
Et donc là, c'était des corons. Donc c'était une situation qui, du point de vue urbain, les jeunes d'Aulnay-sous-Bois auraient dit « Ah, mais tout le monde a sa maison, formidable », sauf que... quand on est en difficulté, l'isolement est encore plus grand dans des petites maisons de coron où il n'y a pas de cage d'escalier où se rencontrer. Et là, en fait, j'étais agent de développement dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire la politique en direction des banlieues défavorisées. Et on a monté, on cherchait à amener la culture dans le quartier. Et plutôt que de décider, nous, ce qui conviendrait d'écouter aux gens, on a monté une petite commission où il y avait des gens, des adultes, des femmes, des jeunes, et surtout plusieurs jeunes, ce qui était un peu... ce qui n'allait pas de soi à ce moment-là. Et on a décidé de passer la première année à ne rien faire sur le quartier, mais à aller partout, écouter ce qui se faisait ailleurs. Donc je me suis baladé avec des jeunes, voir des pièces de théâtre, le festival de Bourges, différentes choses autour à Lille. Et petit à petit, en fait, je me souviens d'un jeune que je ramenais dans ma voiture qui me disait, on venait de voir une pièce de théâtre contemporaine, il me disait, j'ai rien compris, je vois pas de quoi ça parle. Et il se met à me raconter sa vie. Et en fait, tout ce qu'il racontait était complètement en lien avec la pièce qu'on avait vue. Donc il avait tout compris, juste il s'autorisait pas à penser qu'il avait pu comprendre. Mais il était complètement dedans, quoi. Donc il avait tout perçu, tout pris en lui.
Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on écoute un petit morceau de musique là? Qu'est-ce que vous proposez?
Je ne sais plus ce que j'ai dit en premier.
Le chant des morts.
Là c'est Harmonique 12, donc c'était en 1990, donc on avait fait passer une commande à un compositeur magnifique contemporain qui s'appelle Patrice Chalulot. Et puis on a joué cette pièce à l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. Avec comme récitant Alain Cuny et sa magnifique prestance et sa superbe voix.
Il m'entraîne, main agile, patiente, au doigt de lui, qui use la pierre et le temps. Les ferrures d'acier de ma mémoire, le soleil escarpé, la meule des éclairs qui taillade la nuit, au-dessus de la source vive des soucis, d'où monte un lent brouillard perfide. Piège tendu entre les arbres, épervier jeté sur la mare, éponge saturée qui colore l'ennui. Enfin, le froid desserre son étau, l'étau des passions clandestines. Gerbe de la lumière aux fenêtres des nids, dans les dentelles tamisées de la clairière, un à un, les fers des prisonniers s'abîment. Un pas, et tous les pas, au même point conduisent. C'est la faim, c'est l'ardeur de vivre qui dirige. La peur de perdre. Des désirs ravalés, toutes les gaines usées, les élans éliminés, tous les amours, toutes les haines dévidées, la poitrine nue vide et la tête enfoncée, les épaules blondes recourbées, le ventre ravagé par les voyages souterrains, les sombres intentions des âges, avec la pesanteur des sentiments obscurs qu'on emprisonne. De quoi s'agit-il à la fin? La fin et tout le souci qu'elle me donne.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres. Alors, on a écourté ce morceau. Nous sommes avec Jean-Marc Serres et Derek Wolfenden. On parle de l'association L'Atelier des Sons. Et peut-être, je ne sais pas, mais avant de parler de... J'aimerais bien qu'on discute du fait que vous soyez retrouvés tous les deux, Derek et Jean-Marc. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que il y a une activité, finalement, parce que... ou Shakira, je sais pas comment ça se passe. Enfin, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Est-ce qu'il y a une activité? Est-ce que c'est une association qui s'occupe des jeux de jeunes, ou je sais pas.
Si, il y a des opérations avec la ville de Paris, où des fois il y a des correspondances entre les artistes, que c'est un lieu pluridisciplinaire avec donc des ateliers partagés. Et du coup, la rencontre avec Jean-Marc et moi, c'est surtout lié à ces ateliers partagés. Moi, je m'occupe du kino dans la grande salle. Et Jean-Marc, il fait partie de... Il a un atelier où il construit ses instruments. Mm-hmm. Et qu'il construit aussi à Saint-Michel-sur-Orge, en alternance, quoi. Justement, dans les structures bâchées. Et du coup, on a déjà travaillé ensemble. C'était sur le film interactif de La Maison du Diable de Robert Wise, où c'était donc l'interaction et Jean-Marc, il avait construit tout un instrument où il faisait des effets sonores sur le film de Robert Wise, voilà.
Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu as des... Enfin, ma question, c'est l'activité dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous faites des... Je sais pas, ouais, des activités, des ateliers, je ne sais pas.
Mais dans le quartier, en fait, ça, donc le Shakirai, c'est dans le 18e, oui, vers la porte de la chapelle. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, tous les artistes n'ont pas forcément vocation à travailler avec le quartier, mais on essaye de le faire. C'est pas simple. Heureusement qu'au sein de Curie Vavar, il y a quelqu'un qui est plus particulièrement chargé de faire le lien avec les assos locales, le centre social. Et donc, il y a eu plusieurs choses auxquelles on a participé. Il y a une activité qui s'appelle Fabrique-t-on, Fabrique-t-a, qui peut être déclinée en Fabrique-t-a chaise, Fabrique-t-on instrument de musique. Voilà. Et nous, on est intervenu sur ça pour travailler avec des gamins dans une cour d'immeuble. Donc, de façon complètement informelle, les gamins viennent pas, ils descendent de chez eux ou pas. Et on s'est amusé avec à fabriquer des instruments, des objets sonores et des sons avec eux. Et donc le 1er novembre, on a un autre atelier aussi, où là on va faire intervenir l'association Hors Circuit avec sa Mala Musique, une Mala Musique qui a été créée à Madagascar dans le cadre d'un projet de coopération. Et donc là, ça va être autour du thème Madagascar et la préservation de la biodiversité, autour d'un conte dont ils vont créer l'environnement sonore.
Ah oui. Alors, j'ai là entre les mains un CD qui visiblement vient, qui en lien avec Madagascar. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Peut-être on va en écouter un extrait.
Alors oui, le CD s'appelle Evero et a été fait par un artiste, Rola Gaman, qui est un très bel artiste malgache, avec, vous allez l'entendre, une guitare avec un magnifique son blues, ouais. et qui en même temps a été pendant longtemps le directeur de l'atelier de création d'instruments de musique qu'on avait monté là-bas. Donc y a un moment où en fait on s'est retrouvé à produire son disque parce que des Américains souhaitaient le produire et que s'il partait dans cette direction-là, il perdait le lien avec nous et il avait envie de le garder. Donc il a préféré finalement être produit par l'obscure association Hors Circuit, mais avec ses réseaux associatifs et ses valeurs aussi associatives, plutôt que de se retrouver à New York. Donc c'est vraiment un très bel album qui est en vente d'ailleurs auprès d'une société qui s'appelle Latéry de Production, qui est en lien avec Madagascar aussi très fort. Voilà, si vous tapotez sur un moteur de recherche Latéry de Production, vous pouvez arriver jusqu'à cet album.
Tu parles de ces valeurs, on va écouter, mais est-ce que tu peux expliciter ça quand même? Parce que je vois bien dans... dans ton travail que tu fais avec les jeunes de Seine-Saint-Denis, tout ça, il y a des valeurs. Ouais. Est-ce que tu peux les... C'est quoi ces valeurs finalement?
C'est compliqué parce que après, quand on les transforme en mots, c'est comme développement durable, quoi. Ça finit par plus vouloir rien dire, tellement c'est usité. Nous, on a envie de rencontrer des gens, c'est vraiment et de partager avec eux. Alors, je sais pas si le partage c'est une valeur ou une nécessité. Mais c'est vraiment autour de ça, en fait, quand on est parti à Madagascar, on a décidé de prendre un an de dispo dans nos activités. On était deux avec ma compagne Monique Paulet. Et on a décidé de partir un an sur ce projet-là. Elle a travaillé avec une association Graines de Bitume qui travaillait avec les gamins des rues. Et moi, à monter cet atelier de recherche et de création d'instruments de musique. Et après, les rencontres se sont faites comme ça. À chaque fois, on a monté un spectacle qui s'appelle Alamanen, qui veut dire en malgache la forêt sonore. Avec, en mélangeant, l'idée c'était la mixité sociale. Donc on a mélangé des étudiants de l'université d'Antananarivo et des jeunes de la rue, des gamins et des jeunes, et on les a fait travailler pendant 9 mois. On leur a mis dans les pattes un scénographe, un musicien, un metteur en scène, une écrivaine, une conteuse, et pendant 9 mois ils ont travaillé sur un spectacle qu'ils ont produit et où Roland Gaman est le compositeur. Et c'est, alors on a pu le produire qu'une fois parce qu'après on n'avait pas les financements pour il y avait 20 personnes sur scène, c'était un truc énorme, mais quelque part, peu importe, cette aventure on l'a fait, on l'a vécu ensemble et les traces sont là. Voilà, c'est les choses qu'on fait. Nous, on part vraiment, on a un projet, on sait ce qu'on veut faire. Tout notre travail autour de Madagascar, il porte sur la culture malgache, qui est à nos yeux extrêmement importante, qui est une magnifique culture, qui est en passe, comme tant d'autres, d'être déshumanisée. La biodiversité, parce que Madagascar est un territoire extraordinaire de biodiversité. Et la musique comme moyen de dialoguer, de partager, d'échanger avec d'autres.
Nécessité, Derek, de transmettre quelque chose, qu'est-ce qui te prend finalement de faire ces séances de cinéma, pourquoi?
Non, c'est pour partager, mes découvertes dans le cadre de plusieurs festivals, que ce soit même à la Cinémathèque de films obscurs où il y a vraiment très peu de spectateurs des fois qui se déplacent parce que les films justement sont pas connus ou les réalisateurs pas connus, ou sinon des films inédits, etc. Et du coup, c'est fédérer tout ce que j'ai pu voir un petit peu d'invisible ou difficilement visible et de les faire partager au plus grand nombre. Et aussi de tester, est-ce que je suis un snob de l'histoire du cinéma ou est-ce que, en fait, non, ça marche et que ça plaît au tout venant, quoi. Ouais. Et c'est aussi, éprouver cette idée-là, et c'est pour ça que le Kino Club existe.
Tu crois que ça peut intéresser le tout venant, comme tu dis, entre guillemets?
Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent. Ouais. Et en même temps, des étudiants de cinéma. Enfin, il y a vraiment, à chaque fois, c'est des gens du quartier en moitié et moitié plus des gens férus de cinéma. Mmh. Et voilà.
Bravo. Bravo. C'est un peu ce qu'on fait aussi, nous. On écoute donc, c'est Rola Gamana.
Rola Gamana. Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, avec aujourd'hui Jean-Marc Serres et Derek Wolfenden. Derek, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer dans cette projection c'est dimanche, je crois.
Alors c'est le 10...
Et puis aussi, j'aimerais que tu expliques ce qu'est l'association Curie-Vavard dont a parlé Jean-Marc.
Alors l'association Curie-Vavard, c'est une association pluridisciplinaire qui existe depuis 2006. Mmh. Et c'est surtout quatre membres qui se sont rencontrés à la fac et qui ensuite se sont un peu fédérés au Théâtre de Verre et ensuite qui ont créé leur propre chemin. Mmh. Leur premier vrai lieu, entre guillemets, parce qu'ils en ont eu d'autres avant, mais leur premier vrai lieu, c'est rue des Montibeux. Vers Porte de Bagnolet, et ensuite ça a été le Gros Bélec pendant un an autour de l'année 2010, et ensuite grâce à un membre qui est cheminot, on a eu une convention avec la SNCF au Chakirail, et donc là maintenant on est toujours au Chakirail, donc ça va faire à peu près 3 ans. Et là on organise plusieurs événements, et donc c'est une association où il y a aussi bien des circassiens, des comédiens, des musiciens. J'ai oublié, mais en tout cas on est vraiment beaucoup et c'est vraiment pluridisciplinaire. Ouais. Et on est assez nombreux, on va dire 60 membres actifs. Ah oui. Sérieusement, 100, mais bon, il y en a 40 qu'on voit pas trop ou de manière très très épisodique, voilà. Ouais. Et donc voilà, ça sera au Chakirail, la projection en lien avec donc Jean-Marc qui représente à la fois l'atelier des sons, à la fois les structures bâchées, et qui fera donc la musique du gros pilier cinématographique et La Princesse aux huîtres de Lubitsch. Donc ce sera le 19 octobre au Chakirail, 72 rue Riquet, dans le 18e, métro Max Ermois. Voilà.
La Princesse aux huîtres de Ernst Lubitsch. Quel intérêt de diffuser ça? Pourquoi toi tu choisis ça?
Bah, en fait, je l'avais découvert à la Cinémathèque française et j'ai pris un peu une grosse claque parce que, en général, le cinéma muet, on le connaît plus soit dans les radicalités, c'est-à-dire le burlesque, soit les gros mélos façon Griffiths ou même Sjöström, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas la question. Mais là, tout d'un coup, il y avait une modernité dans le rythme, dans le timing des plans, dans le découpage et surtout dans l'histoire qui annonce en fait la screwball comédie, donc genre américain des années 30. Qui est super dynamique, c'est sur la crise conjugale, mais traitée de manière très festive, parce que c'était l'époque de la crise, donc on voulait pas non plus plomber le moral des Américains. Et donc, voilà, et là, en 1919, plus de 10 années avant, on a, voilà, on va dire, l'ancêtre de la screwball comedy de Lubitsch, qui, comme par hasard, ben, on va émigrer aux États-Unis où il va avoir, on va dire, son âge d'or. Mmh. Et c'est une période assez incroyable pour Lubitsch, parce qu'il va faire La Poupée, d'après les contes d'Hoffmann, et qui est d'une modernité assez hallucinante aussi, parce que son début de film, on le voit lui, il se met en scène, parce que c'était aussi un comédien formé par Reinhardt, qui construit une maquette de décor, et le décor devient réel avec des vrais comédiens qui sont traités comme des automates. Et voilà, là c'est l'intérêt de Lubitsch, c'est aussi la modernité du jeu de l'acteur, dont la comédienne de La Poupée ou de La Princesse aux huîtres, c'est aussi Owalda, donc c'est un peu l'égérie allemande, en parallèle avec Liane Guiche aux États-Unis. Là il y a aussi Owalda, mais complètement oubliée. Et alors elle est super moderne, elle joue façon un peu cabaret. Ouais. Et a un jeu très naturel, très désinvolte, qui encore aujourd'hui est assez éclatant à regarder, quoi.
Et alors à l'époque c'était y avait de la musique, en fait, j'imagine.
Oui, alors apparemment pour le théâtre de l'UFA, je sais plus, que j'avais trouvé une petite citation, et apparemment il aurait été accompagné. Alors est-ce que je vais la retrouver? Évidemment. Oui, voilà, c'est cette comédie donc de La Princesse aux huîtres inaugura le premier grand théâtre du FA, une partition originale pour orchestre de 20 musiciens accompagnait le film. Donc c'était le premier long métrage satirique de Lubitsch, donc un genre qu'il devait faire sien par la suite en y apposant sa touche unique. Donc ça, c'est tiré de The Lubitsch Touch de Hermann Weinberg.
Quel sens ça a de demander à Jean-Marc et l'atelier des sons de faire la musique de ce film?
Bah justement, par rapport à La Maison du Diable qu'il avait accompagné par moments, j'étais tellement frustré que ce soit que des petits moments, alors que c'était plus des effets bruitistes géniaux, mais voilà, c'était que par très courts moments. Et donc je voulais prolonger cette expérience et en effet lui déléguer complètement la musique du film de Lubitsch sur 1 heure et plus 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Et voilà.
Jean-Marc.
Oui, c'est terrorisant de, Non, ce qui est intéressant, c'est que on a déjà fait, par exemple, des sons, notamment René Damburi, le musicien avec lequel je serai sur scène, qui a accompagné des conteurs, et donc qui a associé la voix et ses instruments pour les soutenir et les harmoniser. Et là, on se retrouve devant un film muet. Alors c'est complètement différent comme démarche. Notre travail, en fait, on a cherché on est parti du piano, en fait, en se disant quand même, bon, même s'il y avait un orchestre de 20 musiciens à la séance inaugurale, la plupart du temps dans les cinémas, il y avait un piano dans un coin, avec un gars qui jouait du jazz, j'imagine, ou ce qu'il trouvait à jouer, ou ce qu'il connaissait. Donc on est parti sur un piano, mais qu'on a démonté, on a enlevé toutes les touches, et on l'a mis par terre. Et ensuite, à partir de là, on a recomposé des pièces par-dessus pour trouver d'autres sons à jouer. Et comme on avait envie de créer plusieurs couleurs sonores, on est parti sur d'autres instruments. Alors on a un cristal bâché, donc construit par l'atelier des sons qui sera sur scène, et également un limonaire, c'est un orgue de Barbarie. Parce qu'il y a un thème que je dévoilerai pas ici, parce que sinon ça serait pas une surprise, mais qui est présent tout au long, mais qui est un peu déstructuré et qui va petit à petit se structurer pour arriver au thème, qui est un thème de jazz. Et donc on avait envie de le jouer, mais pas, on pouvait pas le jouer sur scène, on n'avait pas les moyens, et donc on a choisi de le faire avec un limonaire qui a été fabriqué par un ami qui s'appelle Jean de Marco. Voilà, donc tous les instruments qui sont sur scène ont été entièrement fabriqués, plus ou moins, ou détournés, comme le piano, par l'atelier des sons. Et là, on aura une bonne part d'improvisation. En fait, on a des thèmes, on a une structure, mais on a envie, en fait, de réagir aussi par rapport au spectateur, de voir comment ça tourne, de voir en fonction des gens s'ils vont rire à des moments. Donc on va faire quelque chose de très libre.
L'atelier des sons, vous êtes deux, enfin, est-ce que tu peux nous parler de ton compère?
Oui, j'ai plusieurs compères dans l'affaire. Le compère de l'atelier des sons, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai rencontré en 93, qui s'appelle Christian Maire. Alors, Christian Maire, en fait, a été pendant 20 ans l'assistant de Bernard Bachet.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc c'est comme ça. En fait, depuis qu'on se connaît, on a toujours fonctionné ensemble. On a travaillé avec des jeunes sortants de prison, des jeunes. Voilà, donc on a fait des affaires ensemble, toujours autour de cette création d'objets ou d'instruments de musique comme développement de l'estime de soi et des compétences de jeunes ou d'autres. Et puis il y a eu un moment donné en fait où pour différentes raisons Bernard Bachet recherchait un constructeur, donc il s'est tourné vers Christian, qui s'est tourné vers moi, et on s'est associé pour créer l'atelier des sons et pour reprendre en fait complètement la création des structures sonores Bachet, ça veut dire de l'instrumentarium Bachet et du cristal et de la tôle à voix.
On va en parler après. On écoute Christian Maire.
Oui, alors j'ai choisi deux morceaux. En fait, il y en a plein. En fait, Christian, il a fait énormément de musique de scène avec Bernard Ferrier et plein d'autres. Et puis il a fait aussi de la musique de film, ouais. Notamment avec Michel Oslo, le compositeur, entre autres, de celui qui est le plus connu, c'est Kirikou, dont Christian n'est pas le compositeur. Ouais. Mais il a fait tous les films qui sont passés sur Canal+ à une époque qui s'appelait Cineci. Et qui ont été regroupés pour devenir deux longs métrages qui ont été Le Prince et Princesse puis Les Contes de la Nuit. Donc là c'est Christian le compositeur, et donc le petit extrait que j'ai pris là, c'est l'extrait de Cineci, parce qu'en même temps c'est un clin d'œil au cinéma d'Erec.
La nuit arrive,
c'est pour qu'on vive notre ciné imaginé.
Et si tu étais ci,
et si tu étais ça,
et si tu dessinais,
et si tu décidais,
et si on inventait,
et si on agissait,
il faut s'y mettre,
il faut s'y mettre,
et on y est.
Et Eh ben, c'était court mais bon. Voilà, effectivement, c'est. On disait en antenne, on parlait de Michel Oslo, effectivement. Enfin, franchement, si les gamins pouvaient voir ça plutôt que d'autres choses. Moi j'adore Michel Oslo. Peut-être on va parler de. Alors, tu dis pas le mot, mais vous êtes finalement facteur d'instruments, quelque part. Et. Peut-être on peut parler des frères Bachet, de ta rencontre avec ces gens-là. Et vraiment, il faut expliquer ce que c'est, quoi. Parce que...
Ah oui, eux ont toute une histoire qui part des années 50, en fait. Donc Bernard Bachet est ingénieur et son frère François Bachet est plasticien. Et donc... Bon, je peux pas vous raconter toute l'histoire, d'autant plus que j'aurais peur de dire des bêtises parce que je la connais pas complètement. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que leur rencontre, en fait, Bernard Bachet a commencé à inventer des sculptures sonores et François Bachet, sculpture sonore, et Bernard, avec Bernard, il les a mises au point, le côté ingénieur, et petit à petit, ils les ont développés. Et il se trouve que dans les années 60, ils ont été invités dans pas mal de festivals et de musées dans le monde, à New York, Tokyo, etc. Et ils ont notamment travaillé pour la fondation Guggenheim sur un programme de développement par l'art auprès de jeunes noirs de Harlem. Et là, en fait, ils ont vu que c'est l'effet que pouvaient produire les instruments, le plaisir qu'avaient les jeunes à en jouer, à s'en emparer. Et ça leur a donné l'idée de décliner toutes les inventions sonores qu'ils avaient mis dans leur sculpture en 14 petits instruments qui ont fondé l'instrumentarium Bachet. Ouais. Donc c'est un ensemble de 14 instruments qui est... à l'époque, c'était la musique concrète, hein, donc... il travaillait avec Pierre Schaeffer, avec Pierre Henry, et là où d'autres sont plutôt partis vers la musique électronique puis l'informatique, eux sont restés complètement dans le domaine acoustique, mais vraiment sur la musique concrète. Donc tous leurs instruments en même temps, ou la plupart de leurs instruments sauf le cristal, ce sont des instruments où on ne cherche pas à produire des notes précises, où le solfège n'a pas droit de citer, mais où on recherche au contraire, le dialogue et l'expression, et le lien entre le mouvement et le son qu'il produit.
Il y a un truc rigolo, c'est que la semaine dernière on a fait une émission sur Luigi Russolo, et la semaine prochaine également. On reviendra sur Luigi Russolo. Et Philippe Blanchard nous expliquait que les couleurs des instruments fabriqués par Russolo à l'époque, c'était pétant, c'était jaune, rouge. Russolo était un peintre. Et quand on va sur Internet, les structures sonores Bachet sont effectivement... moi, ça, je peux pas m'empêcher de penser à ce rapprochement-là. Les structures... Les trucs... pédagogiques, hein, je pense que c'est ça, quoi, sont très colorés. Et est-ce qu'il y a un lien avec Russolo, par exemple, ou...
Ça, je ne saurais pas dire. Mais sur le lien avec les couleurs, oui, il y a une recherche de couleurs des sons. À partir du moment où on s'évade du solfège et de ses contraintes, on est plus libre finalement d'aller chercher d'autres arts, les arts plastiques avec les sculptures sonores, mais aussi la peinture. Bon, les frères Bachet ont été proches de Tinguely, par exemple, mais aussi de Cocteau à l'époque. C'est tout ça, c'était des gens qui se rencontraient régulièrement. Et donc il y a toujours eu beaucoup de mélange entre les différentes disciplines artistiques. Donc c'est aussi ce qui est intéressant, parce que finalement Derek parlait tout à l'heure de Curie-Vavart et de la pluridisciplinarité. C'est une recherche permanente, hein, qui, heureusement d'ailleurs, qui a pas de début et pas de fin, mais on est complètement là-dedans à l'atelier des sons, et on se retrouve complètement là-dedans avec Derek quand il fait par exemple du cinéma interactif, au travers du cinéma il y a des acteurs, des figurants, des musiciens, des peintres qui interviennent, puisqu'il y avait une projection de peinture sur l'écran.
Tu peux expliquer ça, Derek, les projections interactives, c'est quoi?
Collection interactive, bah en fait c'est normalement il y a des, enfin il y a, c'est une influence à la fois du cinéma dit bis, c'est-à-dire de genre, ouais, plutôt fin 50-60, qui est lié au cinéma William Castle, donc qui faisait des, qui est, je pense, en moitié, c'était un grand entrepreneur d'effets spéciaux et tout, donc il crée, on va dire, des sièges vibrants pour faire peur aux spectateurs à des moments clés du film. Alors, soit parce qu'il n'avait pas confiance dans son propre film, soit parce que, ouais, il voulait innover quelque chose d'autre, parce que ça, on le saura jamais vraiment. Mais c'était aussi fédérer le cinéma peut-être plus critique, plus contestataire, c'est-à-dire le cinéma lettriste, comme le cinéma même situationniste, qui a repris pas mal de figures des lettristes. Et c'était de fédérer, voilà, deux genres qu'on oppose toujours ou qu'on catalogue de manière diverse et variée, et voilà.
Ok, concrètement, moi je te parle concrètement, c'est quoi une séance de cinéma participative ?
Bah, c'est créer une réelle 3D en fait, et pas celle juste optique, c'est tout simplement une vraie 3D. Comment avec les spectateurs qui peuvent avoir des idées pour interagir, avec qui on leur dépose des cartes au pif comme ça, et ensuite ils décident d'interagir en fonction de cette carte, ou même ça peut leur donner d'autres idées pour les motiver, toujours en lien avec le film évidemment, d'interagir pendant le film. Donc ça peut être l'écran qui peut être truqué, il peut être sur roulette, il peut être extensible. On peut
l'écran sur roulette ?
Ouais, on l'avait fait comme ça, ouais, sur roulette, qui peut pivoter aussi comme un tableau, ou sinon légèrement transparent pour faire des effets de lumière, de couleur derrière avec des lampes torches. Donc par exemple, il y a le personnage féminin, etc., qui en regard caméra, et on met deux lampes torches vertes, comme si elle était possédée ou en transe. Et en plus, c'est souvent, on l'a fait deux fois, on a toujours pris une thématique plutôt gothique, fantomatique, avec donc The Spiral Staircase de Robert Siodmak. Donc c'est Demain la nuit, je crois, en français, donc de 46 ou de 45, je sais plus, et La maison du diable de Robert Wise, qui est, on va dire, 15 ans plus tard, en 63. Voilà. Et c'était des films qui invitaient vachement là-dessus, parce que c'est vraiment des films qui jouent sur le suggéré, sur les effets de peur. En plus, ils sont en noir et blanc, donc nous, on peut ramener de la couleur dessus. Et voilà, alors c'est des films évidemment parlants, qui n'ont pas du tout prévu pour interagir dessus. Ouais. Donc l'idée, c'était aussi que ça soit le chef d'orchestre pour que nous, on n'interagisse pas de manière grossière non plus. Ça donnait une rigueur aussi bien pour les plasticiens que les musiciens pour interagir.
Il y a des règles finalement. Il y a des... comment dire, un mode d'emploi, je sais pas comment dire.
Non, après c'est chacun, ça dépend du film, ça dépend de qui va s'occuper de ça. Donc là, entre guillemets, c'était moi le chef d'orchestre, mais s'il y aurait quelqu'un d'autre, il aurait trouvé d'autres idées, et ainsi de suite. C'était juste lancer, on va dire, une petite brèche dans un cinéma qu'on a un peu oublié, parce qu'on est de plus en plus fétichiste sur l'image, on y touche de moins en moins, enfin avec les gros effets qu'on rajoute, etc. On est de plus en plus soumis à une grosse musique orchestrée, à des grosses images avec des effets numériques et compagnie. Ou maintenant, récemment avec la 3D, etc. Et là, je voulais recréer une 3D artisanale, quoi, parce que pour moi, l'origine du cinéma, elle est quand même liée au cirque. Et donc, c'était redonner des dimensions voilà, sympathiques, artisanales de ce cinéma qui, des fois, est peut-être un peu trop pris au sérieux, ou... Enfin, voilà, c'était une...
C'est marrant que ce soit toi qui dis ça, toi qui es vraiment passionné de cinéma. Est-ce qu'il y a de ça, de ce que tu expliques, là, dans le fait de convoquer Jean-Marc et ses instruments bizarres, finalement ?
Oui, parce que déjà humainement je le connais, donc c'est quelqu'un quand même de très ludique, et aussi de avec le rapport au son très ouvert, qui a pas du tout de dogme, de rigueur particulière qui font autorité, etc. Et donc même quand il joue des instruments ou qu'il me fait découvrir des instruments, enfin voilà, on est en enfance, quoi. Enfin voilà, moi dans l'écoute et lui dans la proposition d'écoute, et même après les sons qui en émanent de ces instruments, etc. C'est magique. On peut que redevenir enfant. On est qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Enfin toi comme
qu'est-ce
toi.
Qu'est-ce que c'est que ça, oui.
Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et du coup on a envie de la poser sur des choses comme le cinéma muet de Lubitsch. Ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en général c'est plutôt des compositions super connues ou des mecs un petit peu à la mode, voilà, qui vont vulgariser le film pour que faire venir les gens dans la salle. Donc moi j'ai pris carrément l'inverse, on va faire un truc qui est obscur, pas connu et en même temps merveilleux, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein, Jean-Marc ? C'est un petit peu, enfin, moi, l'idée de faire cette émission, c'est ça part de là, quand même. Qu'est-ce que ce truc-là, quoi ? Les inventions des frères Bachet. D'ailleurs, est-ce que tu peux, on va dire, techniquement, concrètement, expliquer ce que c'est, ces instruments-là ?
Je peux en expliquer la base. Ouais. La base, c'est l'idée de la tige encastrée. En fait, on prend une tige, ça peut être un clou d'ailleurs, on le plante dans du bois et on fait vibrer le clou et on a une note.
Il y a des violons Des violons de fer, j'ai entendu.
Oui, absolument, ouais. Absolument. Donc, ils sont partis de là, en fait, où, du point de vue acoustique, on a l'endroit où la tige est encastrée, où on a une grande tension et très peu de vibration, et le haut de la tige, où là, on a très peu de tension et une grande vibration. Mmh. Et en fait, la tige, dans ce cas-là, devient une corde. Ouais. On en joue comme une corde, et d'ailleurs, ça, de sa longueur dépend la hauteur du son. Plus elle est petite, plus le son est aigu. Sauf qu'après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on arrive à des moments où on perd la fondamentale et on arrive vers des harmoniques, donc on peut avoir des sons plus graves. Ouais. Donc les choses sont. Dans leur travail, en partant de là, d'abord, ils ont eu envie d'allier le son, l'esthétique et la participation des gens, c'est-à-dire que leur structure, leur idée, c'était vraiment que quand il y a une exposition, on peut jouer pas des œuvres qu'on met dans un musée, qu'on a derrière une verrière, mais il faut que les gens qui passent puissent jouer de ces instruments, alors de manière un petit peu encadrée pour que ça vive, mais l'idée, c'est vraiment ça. Donc à partir de là, ils ont fait des tas d'expérimentations, en fait, hein, en s'appuyant sur des connaissances acoustiques, bien entendu, mais aussi en expérimentant énormément. L'instrumentarium bâché, il est très large. Il y a des tiges filetées qu'on retrouve un peu partout, des lames de fer. Suivant le type de métal qu'on utilise, on a des sons différents. Suivant que c'est de l'acier laminé, étiré, de l'inox. Et puis ils ont découvert à un moment donné le cristal. Oui. Le cristal qui est un instrument. Alors un petit peu, enfin vraiment différent du reste de l'instrumentarium, puisque là, pour le coup, je parlais de musique concrète, là on a des sons très purs, très précis, mais qu'ils ont altéré en mettant des résonateurs en tôle, et suivant l'épaisseur de la tôle, on peut avoir de nouveau cette musique concrète qui re-rentre par la fenêtre dans le cristal. Donc le principe du cristal, en fait, c'est une tige de verre qu'on frotte après s'être mis les doigts dans l'eau. Et le contact entre les doigts et le verre, via l'eau, fait des micro-arrêts, des micro-vibrations qui jouent un petit peu, l'eau joue un peu le même rôle que la colophane dans l'archet du violon. Oui. Et donc, on a ces micro-arrêts, micro-vibrations qui créent une onde. Cette onde se transmet de la tige de verre par le biais de tout un système à des tiges filetées, et ce sont elles qui chantent. Mmh. Hein, donc, on confond souvent quand on parle du cristal. Bon, d'abord, les tiges ne sont pas en cristal, ça a été testé, mais ça n'avait pas d'intérêt particulier, elles sont en verre. Mais elles ne produisent pas le son, à la différence quand on fait vibrer un verre en cristal. C'est le verre lui-même qui résonne. Ouais. Là, le verre ne fait que transmettre la vibration vers les tiges filetées. D'accord. Et ce sont ces tiges filetées qui sonnent. Après, il a fallu toute une vingtaine d'années de mise au point pour arriver à ce que, à la fois, à avoir une gamme. Aujourd'hui, on peut faire des cristals jusqu'à 63 notes, hein, donc 7 octaves, 6 octaves. Et puis que ça soit jouable ergonomiquement. Au départ, c'était des sculptures sonores, les tiges étaient verticales, sauf que verticalement, c'est un peu compliqué à jouer. Donc, ils ont beaucoup travaillé avec un cristalliste qui s'appelle Michel Deneuve, qui a vraiment travaillé longtemps avec les frères Bâché pour mettre au point ce cristal et le rendre accessible à tout musicien. Ça, c'est vraiment des instruments qu'on fabrique pour des musiciens. Ouais. Et parfois d'ailleurs, souvent, des musiciens qui sont plutôt dans l'électro et qui, au travers du cristal, ont envie de retrouver un lien entre leur corps et la production du son.
Alors, en préparant cette émission, je me suis renseigné sur les cristals Bâché et effectivement, ces instruments sont utilisés dans la pop. Dans la musique populaire, quoi, tout simplement, et dans Vanessa Paradis et comment s'appelle l'autre, Zazie. Et je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion, peut-être, cette émission de diffuser Vanessa Paradis. Mais non, j'ai écouté, c'est vraiment trop de la merde, quoi. J'ai vraiment pas envie de passer ces merdes-là. Pardon, désolé, mais peut-être qu'on va écouter Deneuve. Ce serait peut-être.
Oui, absolument.
En plus, c'est marrant que tu fasses le pont avec Deneuve, parce qu'on parlait de musique électro, et moi, ça m'a fait, enfin, le morceau qu'on va entendre, c'est le quatrième, là. Ça m'a vraiment fait penser à Tangerine Dream, qui est en plus l'enregistrement sort, date de la même année, je crois, que Sif, le solitaire de Michael Mann. Et c'est assez étrange, c'est très proche, en fait, le rendu sonore, évidemment, le Bâché est encore plus incroyable, mais il y a un truc pas éloigné du tout, quoi.
Oui, c'est incroyable, c'est beau à voir, enfin, c'est... Ouais, j'encourage les auditeurs à aller voir sur Internet les gens qui jouent du cristal et c'est vraiment étonnant, quoi.
Oui, il y a également, via l'association Structure Sonore Bâché, il y a une biennale, donc c'est tous les deux ans, c'est la troisième cette fois-ci, qui va avoir lieu, pas le week-end tout de suite, mais le week-end d'après, le 24 et 25 et 26 octobre, donc vendredi, samedi et dimanche, le 24 et le 25 au Centre Culturel Bâché à Saint-Michel-sur-Orge, et le 26 au Centre d'Art Contemporain à Brétigny-sur-Orge. Donc toutes les informations, vous les trouverez... sur www.bâché.org, qui est le site de l'association Structure Sonore Bâché. Et là, vous allez voir des tas de cristal depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Alors, on a dit peut-être un peu pompeusement en annonçant l'émission sur le site de Radio Libertaire. C'est. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. On annonce que c'est la création d'instruments la plus importante du XXe siècle. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Il y a toujours un effet record là-dedans qui peut avoir avec la musique, mais disons oui, il y a en tout cas une partie de musicologues qui considèrent que c'est du point de vue de la musique acoustique, s'entend, ce qui est une partie seulement de la musique, que c'est la seule véritable invention acoustique du XXe siècle, la précédente étant le saxophone d'Adolphe Sax en 1848. Donc il y en a pas effectivement tous les matins. Voilà, maintenant, ce qui est important aux yeux des concepteurs, des frères Bâché, donc Bernard a 96 ans aujourd'hui, son frère François est décédé malheureusement cette année, mais c'est que ça vive, et peu importe l'histoire de la musique, mais effectivement, c'est une œuvre qui est très reconnue et importante.
On parlera des frères Bâché peut-être avec toi, si tu veux bien. On écoute Michel Deneuve.
Thank you.
Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres. Ce qu'on vient d'écouter, donc, c'est du cristal bachet. Donc c'est un instrument créé au XXe siècle par les frères Bachet. Qu'est-ce qui caractérise cet instrument? Qu'est-ce qu'il finalement, en écoutant, on aurait pu imaginer que c'est du synthétiseur ou je ne sais quoi, quoi. Qu'est-ce qui différencie
Ce qui le caractérise, c'est que c'est un instrument acoustique. Et quand je disais tout à l'heure que les musiciens qu'on croise et qui souhaitent acquérir un cristal sont des musiciens qui viennent souvent de l'électro, c'est qu'il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a des sons en même temps qui pourraient complètement rentrer dans l'électro, mais on a cette expérience unique de toucher soi-même l'instrument et de propager le son, c'est-à-dire le sentir dans tout le corps.
Ouais.
Et finalement, c'est une expérience que je relirais par exemple à Curie-Vavart, il y a un atelier photo argentique.
Ouais.
Et en fait, cet atelier photo, la plupart des gens qui s'y inscrivent sont des jeunes qui n'ont jamais connu que le numérique,
ouais,
et pour lesquels c'est vraiment une découverte, l'argentique. Et cette relation, là aussi, charnelle, hein, à la photo, comme on a une relation charnelle dans le cristal avec la musique.
Très clairement, encore une fois, hein, si les auditeurs veulent aller voir sur Internet, la façon dont ça se joue, avec l'espèce de petit saut pour se mouiller les doigts et tout, c'est étonnant. Et alors, comment un guitariste en vient à s'intéresser à ça? C'est quoi le parcours? Comment on évolue comme ça?
C'est une succession d'accidents. La création est l'accident dans l'art est extrêmement important. Donc, et dans les parcours humains aussi, justement. Enfin, bon, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours laissé ouverte la porte à ce qui pouvait m'arriver. J'ai changé pas mal de fois de métier dans ma vie, au gré de ce que j'avais envie de découvrir, des rencontres que je faisais, en prenant des risques, évidemment. Mais cette rencontre avec les structures sonores bâchées, finalement, elle est quand on entend ce qu'on fait avec il y a 25 ans avec Harmonique 12 et Alain Cuny et les sons produits par le cristal, on a aussi des liens quand on pour moi, enfin, je suis le premier à pas être étonné de ce qui m'arrive parce que j'y vois une continuité. En tout cas dans la recherche.
Oh, on n'est pas très étonné non plus, hein. C'est un faux étonnement. Hein. Tu as connu les frères Bachet?
Bernard est toujours en vie, donc il est l'atelier de Saint-Michel-sur-Orge et aussi sa maison. Donc là, il n'y habite pas actuellement, mais il vient tous les mardis à l'atelier, tous les mardis après-midi. C'est génial, il vient travailler, quoi, hein, quand il vient.
96 ans.
Ouais. Il vient pour regarder les structures. Là, il est actif, très actif dans la préparation de la biennale. Et il sera présent, d'ailleurs, à la biennale. Il y aura des concerts, des expos, des conférences, et il y aura aussi la possibilité de visiter l'atelier et de rencontrer et Christian Maire et moi-même, donc pour ceux qui le souhaitent, l'atelier où on fabrique en partie, puisqu'il y a aussi au Shakirai les structures sonores bâchées et le cristal.
Ah oui, ok. Derek, peut-être tu veux nous parler d'un vieux truc
que Christophe ne à tout prix pas passé, mais quoi, que je maintiens à passer. Alors c'est juste en fait pour représenter aussi la séance, donc c'est aussi de la musique sirupeuse, mais c'est des images assez étonnantes parce que c'est Bubsy Berkeley, donc un génie tout court chorégraphe qui non seulement a révolutionné donc l'art de filmer la danse et le chant, avec des prouesses techniques. C'était un vice-officier à l'origine, et donc c'est assez marrant de le voir entouré de plein de nanas et de filmer ces nanas avec des violons, avec des néons, sur des effets très contrastés de noir et blanc. Et c'est lui qui aurait plus ou moins, c'est pas lui vraiment l'inventeur, mais c'est lui qui l'a rendu célèbre, on dit un plan à la Berkeley, c'est-à-dire c'est un plan zénital 90 degrés en plongée, pour créer des figures géométriques avec tous ces corps qui deviennent des formes géométriques, qui a été repiqué, etc., dont a rendu hommage au Scorsese, mais malheureusement aussi la publicité, peut-être plus connu par la publicité. Mais voilà, en tout cas, il chorégraphie aussi bien des mouvements de caméra très virtuoses qui passent passait du grand temps, enfin qui passait, qu'est-ce que je dis, en plan d'ensemble au gros plan. Donc imaginez la mise au point, comment elle est compliquée pour l'opérateur, mais aussi pour les effets très contrastés de noir et blanc, ce qui est très compliqué aussi pour la lumière. Et donc il y a un des grands admirateurs en France, c'est Averti en fait. C'est, voilà, il a toujours reconnu son influence pour Berkeley. Et donc là, il y a un de ses films qu'il a co-réalisé, parce que lui, il a réalisé que des segments, c'est Gold Diggers of 1933 de Mervyn Leroy. Et voilà, c'est ces moments-là qui sont magiques, et c'est un film très important et intéressant par rapport au regard de la crise économique des années 30, où en gros, voilà, c'est une équipe de musical qui désespérée pour monter un spectacle et qui essaye de tout faire pour trouver de l'argent. Et le paradoxe, c'est ces moments complètement baroques de Berkeley qui, malgré la misère même de l'époque, a une sorte de dimension baroque et technique assez hallucinante. Donc je sais pas si on peut soit en faire entendre The Symphony Waltz, qui est un des morceaux avec des violons, ou Remember the Forgotten Man. Voilà, l'idée qui est marrante, le son est vraiment sirupeux, bon, c'est The Symphony Waltz, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu un séisme, et quand on voit la séquence, on voit plein de danseuses sur des ponts construits dans un décor hallucinant, et il y a eu un séisme qui a tout fait valdinguer tout ça, donc, c'est quand même, voilà, tu peux te venger en imaginant... l'aléa technique.
Tout à fait bien. Donc ça, ce sera diffusé au Chakirai.
Voilà, c'est dans la première partie de la séance donc du Kino Club le 19 octobre à 20h. Et donc il y aura entre autres Yolanda et le voleur. Et on n'en a pas parlé, mais Yolanda et le voleur, magnifique séquence que je montrerai. Film pas terrible et pourtant un des plus personnels de Vincente Minnelli. Et il y a une séquence assez unique qui fait un quart d'heure et qui est construite comme un boléro où il y a Fred Astaire qui évolue dans son rêve, qui s'appelle le ballet du rêve, influencé par les surréalistes, parce qu'il y avait une grosse expo dans les années 40 qui a un peu démocratisé le surréalisme aux États-Unis, d'où les influences de psychologie aussi chez Lang avec La femme au portrait, ou chez Hitchcock avec La maison du docteur Edwards, connue pour sa séquence de Dali. Et voilà, il y a une de ces séquences les plus connues dans l'influence du surréalisme, c'est dans Yolanda et le voleur.
Alors, on va écouter ça. Il n'y aura pas les mouvements zénithaux de la caméra. Hein.
Ouais, mais si on n'aime vraiment pas la musique, on peut s'imaginer le séisme, la crise économique des années 30.
J'encourage vraiment les auditeurs à imaginer beaucoup, hein, à avoir beaucoup d'imagination.
Voilà, c'est Gold Diggers, voilà.
On écoute ça.
Forget your sympathy. It's all right with me. I was satisfied to drift along from day to day till they came and took my man away. Remember my forgotten man? You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted, hip hooray. But look at him today. Remember my forgotten man. You had him cultivate the land. He walked behind a plow. The sweat fell from his brow. But look at him right now. And once he used to love me.
Let me dream a song that I can bring to you. Take me in your arms and let me cling to you.
Voilà, bon, toutes nos excuses aux auditeurs. Bon, c'est voilà, bah, tu tenais, Derek.
Mais moi j'assume. En plus, la première, c'était quand même intéressante. C'est limite John Blondell qui est quand même comédienne, qui chante et qui limite rap. Et c'est avec un petit, quand même, des petits timbres jazzy. Et c'est Remember the Forgotten Man. Et c'est en regard de la crise économique. Elle chante sur les militaires de la Première Guerre mondiale qui n'arrivaient pas à trouver de boulot en fait. Et c'est une séquence à la fois très dure et très belle. Enfin, vraiment lyrique à tel point que normalement elle devait être plus ou moins au milieu du film et les producteurs ont décidé de le mettre à la fin parce que c'était tellement magnifiquement mis en scène par Berkeley que du coup ils limite ils volent la vedette au réalisateur Mervyn Leroy à qui on doit quand même Little César et le petit César et d'autres grands classiques de l'histoire du cinéma américain.
Alors Derek est passionné, c'est ça qui nous intéresse hein, dans l'émission. Il nous fait écouter des morceaux de merde. Bon, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Bon, mais ta passion pour ce que tu racontes là, enfin, qui est presque qui est étrange. Est-ce que tu remets ça en relation avec ce dont on parlait avec au début ou pas?
Ah, mais bien sûr.
Jean-Marc, par rapport à former les jeunes et tout ça, il y a.
Mais moi, je veux tout hybrider, c'est-à-dire hybrider les vieux, les jeunes. Enfin, pour moi, c'est cette hybridation qui compte et c'est ça qui va faire ces rencontres, ces accidents, comme disait Jean-Marc, qui font, je pense, la réelle création, mais la création pas de musée, la création qui est vivante, tout simplement. Quoi.
Qu'est-ce que vous pensez, tous les deux, de l'art, la culture, tel qu'on peut le. Le lire dans Télérama ou des choses comme ça.
Oh, j'ai pas d'avis particulier. Il y a des trucs géniaux. Enfin, au moins tout est une question de perception, quoi. C'est-à-dire où on reçoit quelque chose qui nous bouleverse, qui nous donne envie de qui nous transforme, qui nous donne envie, ou on reçoit rien et puis c'est tout. Après tout le reste.
Ma question est absolument ridicule. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que il y a besoin d'avoir des connaissances en fait pour apprécier ce dont parle Derek ou ce que toi, Jean-Marc, tu portes, quoi.
Je crois qu'il y a besoin d'avoir une grande ouverture et une grande curiosité. D'ailleurs, j'aimerais bien que soit plus présent l'ouverture et la curiosité dans l'éducation, dans l'éducation nationale, dans les conservatoires de musique aussi. Et je crois que c'est ça. Enfin, le thème de l'accident, il vient pas là par hasard, parce qu'on voit bien dans notre société que finalement, plus on programme, là, on est en train de faire des plans, on planifie, on programme. On a des économistes, alors qui pour le coup sont éminemment scientifiques. Plus on va dans le mur, quoi. Donc, vive les accidents.
Oui. Bon, il y a Rafael Correa, le président de je sais plus quel pays, c'est quoi, c'est l'Équateur.
L'Équateur.
Qui dit que l'économie n'existe pas, enfin la science économique n'existe pas. Moi j'ai un bac B, hein, science économique. J'ai toujours pas compris ce que. Enfin bref, c'est pas très important. Quelques mots. Il nous reste 5 minutes. Derek, quelques mots sur quand même dans le cadre dans lequel est programmée cette séance dimanche, c'est le Festival des cinémas différents.
Oui, justement, je voulais y venir. Alors, c'est le 16e Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris qui se passeront surtout aux voûtes. Et donc, la semaine dernière, c'était aux Instants Chaviré, programmé par Yves-Marie et Maé. Oui. Donc là, il y a un nouveau donc événement périphérique, c'est donc le kino du 19. Et sinon, le festival va se dérouler du mercredi 22 au dimanche 26 octobre, voilà. Et ce sera vraiment principalement aux voûtes. Alors peut-être rappeler où se trouvent les voûtes, mais alors là, je trouve plus l'info aussi. Alors 19 rue des Frigos, dans le 13e à Paris. Voilà. Par rapport à... Et puis donc il y aura vraiment beaucoup de choses, mais je crois que vous en avez déjà parlé et vous en reparlerez. Donc peut-être que vous en parlerez même mieux que moi, donc... J'en dirai pas plus, quoi.
Donc, alors, peut-être tu peux aussi présenter la séance de dimanche. Donc, concrètement, est-ce qu'on va voir Jean-Marc jouer des Crystal Bachet?
Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un autre partenaire qu'on a oublié de mieux mentionner.
Bien sûr.
C'est René d'Ambury. Bah oui.
Ah oui, René Damburi, ah oui. Bah là c'est une belle rencontre aussi. On s'est rencontrés parce que je cherchais un prof de piano pour mon gamin. Et je suis allé. Il y a un lieu culturel à Arcueil, donc moi j'habite Arcueil, ouais. Qui s'appelle Anigra, qui est un lieu très sympa et ouvert. On va faire des choses ensemble d'ailleurs, sûrement avec il y aura Bachet qui sera pas loin. Et puis il travaille là et lui en fait c'est un percussionniste et pianiste qui a été guadeloupéen, ouais. Qui a beaucoup travaillé, enfin il a beaucoup été pris comme musicien dans des tournées avec Manu Dibango, Maury Canté et d'autres, et puis surtout ce qui est important c'est qu'il a travaillé avec son maître et ami Guy Conquête qui est un maître guadeloupéen du Guoka. Qui est à la fois un tambour, mais aussi toute une façon de jouer la musique. J'ai pas eu le temps malheureusement là de trouver un son parce qu'il y a un disque, je crois, qui va sortir dans pas longtemps où il est avec Guy Conquête au Palais des Glaces à Paris, où René Damburi joue. Mais voilà, c'est un artiste. Cette rencontre, c'est aussi avec quelqu'un qui a les oreilles ouvertes, qui peut passer par le jazz, le blues, la musique contemporaine, pour lequel c'est s'exprimer par la musique qui est important, et peu importe le cadre.
Donc, vous jouez tous les deux du cristal ?
En fait, non. Le cristal est un des éléments de la panoplie de sons qu'on va utiliser dimanche. On va beaucoup jouer sur le piano préparé. Le cristal intervient à certains moments, mais alors pas beaucoup de façon mélodique, sauf pour juste évoquer quelques thèmes comme ça, ici et là, en relation avec le film. Donc voilà, le cristal sera présent, mais pas tellement en fait. On entendra surtout le piano et les différents objets qui sont accrochés ou fixés ou qui vont glisser dessus.
Peut-être on peut rappeler pour terminer le lieu, ce qui se passe, l'heure, l'endroit où c'est, Derek.
Alors le Kino Club, c'est le dimanche 19 octobre donc à 20h, donc plutôt 19h30, comme ça vous serez mieux assis, mieux placé. C'est au Chakirai, donc c'est un lieu pluridisciplinaire de Curie-Vavart, et c'est au 72 rue Riquet. Dans le 18e à Paris. Et puis, j'ai fait un petit oubli, mais le lien social très fort à Curie-Vavart a été quand même inauguré par, il faut quand même citer deux noms, je pense, qui sont importants. C'est Vincent Prieur et Clara Machin. Ouais. Et c'est juste leur rendre un petit hommage.
C'est intéressant que tu parles de lien social, justement. Hein. Enfin, je pense qu'on a assez développé l'histoire. Peut-être, Laurent, tu as des annonces?
Quelques annonces aussi. Ce soir, vendredi 17 octobre, c'est à l'église Saint-Méry, les rendez-vous contemporains. C'est l'ensemble Odos qui joue des compositions de compositeur Luis Enrique Yudo. Voilà, donc j'ai dit c'est à 20h30. Je cherche le prix. Dans mon idée, ça doit être genre à 12 euros, voilà. L'église Saint-Méry, c'est rue de la Verrerie, 4 rue de la Verrerie dans le Marais. Donc ça, c'est ce soir, vendredi 17 octobre. Ouais. Et puis, un autre événement un peu plus tard dans la semaine, le 23 octobre. Donc ça doit être... c'est quel jour le 23? C'est mercredi, je crois. Mercredi 23 octobre, donc à 20h, au Petit Bain. C'est une soirée coax avec Hippie Dictat, le groupe de Richard Antoine Viard notamment, avec Richard Comte et Julien Chamla. Il y a un nouveau disque qui vient de sortir. Il y aura Fantasio aussi qui sera là ce soir-là. Et puis un groupe toulousain qui s'appelle Le Tigre des Platanes. Le Petit Bain, c'est 7 ports de la gare, donc dans le 13e. C'est pareil, ça doit être vers les frigos, la bibliothèque François Mitterrand. Ça c'est donc le 23 octobre à 20h. Et alors le prix, je crois que c'est 10 euros aussi. Non, 8, ouais, c'est ça, 8-10 euros. C'est donc mercredi prochain. Voilà les deux annonces que je voulais faire.
Et alors, j'aimerais demander à Derek, on n'a pas parlé du prix, c'est intéressant, est-ce que c'est 150 euros ou 5 euros?
Non, c'est prix libre pour le kino, c'est on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut, pour soutenir l'événement, tout simplement, et surtout l'asso en fait. Voilà. parce qu'on est tous des bénévoles.
Donc okay, tu peux donner 150 euros si tu veux.
Voilà, donc bienvenue.
Et ben, c'est bien ça. On se quitte avec quelle musique?
C'est peut-être Tangerine Dream pour faire l'écho avec les frères Bachet et donc Deneuve qu'on a écouté tout à l'heure.
Bon. Eh ben, je crois que ce sera la première fois dans notre émission où on entendra Tangerine Dream. Non pas qu'on n'aime pas, hein, mais mais non, bon, j'aime beaucoup Tangerine Dream.
C'est la BO d'un film qui s'appelle Le Solitaire de Tangerine Dream et ça fait vraiment penser au son acoustique du cristal, donc c'était voilà pour faire le pont.
Ah d'accord.
Et il n'y a pas le temps de passer le dernier petit truc de Christian Mère vite fait.
Plutôt le son de Christian alors dans ce cas.
Ah oui.
Allez, ouais. Parce que Christian en plus il pourrait pas être là dimanche. On a travaillé avec lui, mais dimanche il n'est pas disponible.
T'inquiète pas, on fera une émission spéciale Tangerine Dream.
Il y a un morceau qui s'appelle Anana, qui est voilà, numéro 16 sur le disque Best of Christian Mère.
Voilà, moi je suis parti dans ça. Et bien après notre émission, les excellents copains de Sortir du colonialisme, je vous encourage à les écouter. Merci à tous. La semaine prochaine, on reparle de Luigi Russolo avec la fin de l'interview de Philippe Blanchard.
Et Tangerine Dream. Merci.
Non, on parlera du crotrock, du rock allemand, ça c'est sûr. Mais pas de Tangerine Dream. Ça sera une autre fois, avec plaisir. Merci Derek, merci Jean-Marc, merci beaucoup.
Merci.
À ciao. Bientôt.
Salut.
And enough.